Le journal.
Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Un adolescent à l'origine de la fusillade survenue ce matin dans un lycée de Grasse. Une dizaine de blessés légers, dont le proviseur. Mais il ne s'agit pas d'une attaque terroriste. On fait le point avec Justine Leclerc dans un instant. La campagne présidentielle, le Conseil d'État donne raison à TF1 contre Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat souverainiste voulait participer au premier débat des candidats lundi soir. Mais le principe d'équité a été respecté, estime la plus haute juridiction administrative. Les explications de Stéphane Robert. Invité de ce journal, l'ancienne ministre Ramayade. Ramayade qui espère toujours être candidate le 23 avril prochain, même si elle n'a pas encore recueilli les 500 parrainages nécessaires. L'actualité à l'étranger, aux Pays-Bas, nous reviendrons sur la nette victoire des libéraux du Premier ministre Mark Rutte devant les populistes de Geert Wilders. Nous évoquerons aussi le premier budget de Donald Trump, marqué par une forte augmentation des dépenses militaires américaines. Ce n'était pas un attentat, mais la fusillade survenue ce matin au lycée Tocqueville de Grasse dans les Alpes-Maritimes aurait pu tourner au carnage. Le dernier bilan fait état de 10 blessés légers, dont le proviseur. Le tireur est un élève du lycée, un adolescent qui avait plusieurs armes quand il a fait irruption dans l'établissement. Il a été rapidement interpellé par les policiers. Le parquet de Grasse a fait le point sur l'enquête en fin d'après-midi. Les précisions de Justine Leclerc de France Bleu Azur.
La procureure de la République de Grasse a dès le début de son point presse écarté tout lien avec une entreprise terroriste. L'élève de première aurait agi à cause de mauvaises relations avec d'autres lycéens. Ce midi, il a pénétré dans son lycée lourdement armé d'un fusil à pompe chargé de cartouches de plomb, de deux armes de poing, d'une grenade et visiblement d'un engin explosif artisanal. L'adolescent de 16 ans est entré dans une classe à tirer. Des élèves sont alors partis chercher le proviseur qui s'est interposé et a été blessé à épaule. L'adolescent aurait dit au chef de l'établissement scolaire qu'il ne lui en voulait pas. Quatre personnes sont hospitalisées, blessées au ventre, à l'épaule et choquées, pas de blessure vitale. Le lycéen interpellé à 13h05 s'est laissé faire. La procureure n'exclut pas la complicité d'autres personnes qui auraient pu aider l'adolescent, par exemple, à s'armer lourdement. L'adolescent de 16 ans n'était pas connu des services de police ni de justice. Il est en garde à vue pour tentative d'assassinat.
Justine Leclerc, merci. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a évoqué, je cite, l'acte fou d'un jeune homme fragile fasciné par les armes. À noter que la fusillade a amené les autorités à déclencher une alerte attentat sur les smartphones via l'application SAIP. L'alerte a été levée en début d'après-midi. Le groupe anarchiste grec Conspiration des cellules de feu est vraisemblablement à l'origine de l'envoi du colis piégé qui a explosé ce matin au siège du FMI à Paris. L'explosion a fait un blessé, une information révélée par l'AFP citant une source policière grecque. À Paris, une source proche de l'enquête a indiqué que des résidus de timbres grecs avaient été retrouvés par la police sur les lieux de l'explosion. On ouvre la page politique de ce journal avec un revers pour Nicolas Dupont-Aignan. Le Conseil d'État a donc rejeté ce soir le recours du candidat de Debout la France qui contestait son absence au débat télévisé prévu lundi soir. TF1 a décidé de n'inviter que 5 candidats, ceux qui sont en tête dans les sondages. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Dupont-Aignan estime que son exclusion relève de l'assassinat politique. Stéphane Robert, le Conseil d'État l'a désavoué en rappelant le principe de l'équité qui n'est pas celui de l'égalité entre candidats.
Il n'y a pas lieu de contraindre TF1 à intégrer Nicolas Dupont-Aignan au débat prévu entre les 5 principaux candidats, explique le communiqué du Conseil d'État, car les règles préalablement fixées en termes de temps de parole montrent que nous serons lundi prochain au moment de ce débat dans la phase d'équité renforcée entre les différents candidats, c'est-à-dire qu'on leur accorde un temps de parole correspondant à leur poids en termes d'intention de vote dans les différentes enquêtes d'opinion. Or, ajoute le Conseil d'État, compte tenu de ce que représente Nicolas Dupont-Aignan, quelques pourcents, son absence à ce débat n'est pas de nature à compromettre le respect du dit principe d'équité renforcée. Qu'en termes joliment administratifs, ces choses-là sont dites. Au-delà du jargon, ça signifie qu'on entérine le fait qu'il y a 2 catégories de candidats, les grands et les petits, et que selon que vous appartenez à l'une ou l'autre de ces catégories, vous ne jouez pas dans la même cour. Le problème est que Nicolas Dupont-Aignan a bien compris l'enjeu de ce débat lundi soir, compte tenu que la campagne électorale n'a pas encore véritablement commencé, notamment en raison des ennuis judiciaires de François Fillon, ce débat sonne comme le véritable coup d'envoi de la campagne. Le moment où on va enfin commencer à parler de programme, à parler de fond, où on va pouvoir commencer à comparer ce que proposent les uns et les autres. Dans ces conditions, ceux qui y participent se retrouvent symboliquement dans la course, tandis que ceux qui n'y sont pas, comme Nicolas Dupont-Aignan, n'apparaissent que comme des figurants.
Stéphane Robert, merci. François Fillon qui doit faire face ce soir à de nouveaux ennuis judiciaires. L'enquête sur les soupçons d'emploi fictif a en effet été élargie aux costumes offerts aux candidats de la droite. Au total, 48 500 euros de costumes selon le journal du dimanche, dont la facture aurait été réglée par un mécène. Un ami m'a offert des costumes en février et alors, avait réagi François Fillon lundi. Rappelons que l'ancien Premier ministre a été mis en examen mardi, notamment pour détournement de fonds publics. Le Conseil constitutionnel publiera samedi la liste définitive des candidats au premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril prochain. Les prétendants ont jusqu'à demain soir, 18h, pour rassembler les 500 parrainages d'élus requis. Trois petits candidats, entre guillemets, devraient franchir cette barre demain. Jacques Cheminade, Jean Lassalle et Philippe Poutou. En revanche, ce sera difficile pour Ramayade, qui avait 217 parrainages mardi. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy est l'invité de ce journal. Bonsoir Ramayade.
Bonsoir.
Ramayade, vous en êtes où exactement dans votre collecte de parrainage ?
Eh bien, j'avance au rythme souhaité, même si les délais sont courts, évidemment. Parce qu'on aimerait toujours avoir un petit peu plus de temps pour avoir plus de largesse en termes de quête de parrainage. Mais on avance raisonnablement, on va voir.
Concrètement, vous avez combien de parrainages ce soir ?
Je n'avance pas de chiffres. On verra bien au moment où le conseil les annoncera, mais... Je pense qu'il est plus temps d'avancer des chiffres, mais plutôt de s'assurer que ceux qui se sont engagés ont bien eu les indications nécessaires pour pouvoir adresser au conseil. Voilà.
Vous en aviez, je crois, plus de 200 au dernier pointage. Ce chiffre a progressé ce soir ?
Bien sûr. Il faut savoir que, pour ceux qui nous écoutent, que ce que compte le conseil constitutionnel, ce sont des parrainages qu'ils ont reçus par courrier. Et tout le monde n'envoie pas au même moment. Tout ça se passe sur plusieurs jours, donc chacun envoie à son rythme. Alors vous avez les gros appareils qui sont effectivement derrière chaque élu pour leur dire envoyer le plus tôt possible pour pouvoir afficher les gros scores tout de suite. Moi je ne suis pas un candidat PS ou MP ou avec des gros appareils politiques, donc nous ne sommes pas derrière chaque élu. On leur dit juste dès le départ, faites en sorte qu'avant le 17 mars 18h, cela parvienne au Conseil constitutionnel. Donc la seule chose qui compte, ce sont les scores qui seront affichés le 17 mars à 18h.
Et donc, ce soir, vous êtes confiante, vous pensez franchir la fameuse barre des 500 parrainages ?
Oui, j'ai travaillé pour ça pendant 9 mois. Je n'ai pas compté ni mon temps, ni mon énergie, ni les kilomètres. Je fais plus de 80 000 kilomètres. J'ai parlé au téléphone à un millier de maires. J'en ai rencontré la moitié. J'ai beaucoup de terrain. Je crois être l'une des rares candidates qui ne s'est pas contentée d'envoyer des courriers. Parce que d'abord, ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas une marque de respect et de considération pour l'élu lorsque vous vous adressez à lui par simple mail ou courrier. Et donc, de fait, j'ai fait ce que j'avais à faire de la manière la plus sérieuse qui soit, la plus déterminée. Donc maintenant, advienne que pourra. Je sais aussi qu'il y a des élus, comme par exemple des parrainages qui sont parvenus au Conseil constitutionnel, qui envoient spontanément de leur côté.
Et que vous disent les élus qui refusent finalement de vous parrainer ?
D'abord, je voudrais vous parler de ceux qui acceptent de me parrainer, parce que c'est d'abord ça quand même qui est important. La première chose, c'est que je viens les voir. Ça, c'est important pour eux, une marque de considération, comme je vous disais. La deuxième chose, c'est que j'ai élaboré un projet politique qui est au plus près des préoccupations de mes interlocuteurs. Je ne viens pas leur parler de l'abus du temps ou de me parrainer parce que c'est moi, mais sur une base de conviction. Donc j'ai travaillé un manifeste des ruralités avec des propositions pour les maires ruraux. J'ai travaillé pendant des mois sur un manifeste de la mer et de la croissance bleue pour 1500 communes littorales. Pareil pour l'outre-mer. Ça aussi, c'est une marque de respect. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « vous avez un langage différent des autres, vous êtes une femme courageuse, on a vu les positions que vous avez prises ces dernières années en politique, qui n'étaient pas forcément favorables à une carrière politique, mais qui ont démontré que vous étiez soucieuse de l'intérêt du pays. » Et ça, c'est aussi des éléments qui comptent. Alors pour ceux qui ne veulent pas, c'est les mêmes raisons que pour tout le monde. C'est-à-dire des élus qui disent qu'ils ne font pas de politique. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de faire de politique que de s'intéresser aux affaires de la nation. C'est au contraire participer à l'avenir du pays, avoir son mot à dire, Parce que quand la politique se fait sans vous, elle se fait contre vous. Et souvent, la politique se fait contre les maires, notamment les maires des communes rurales, parce qu'ils n'ont personne pour les défendre, justement, puisqu'ils sont souvent absents de ce scrutin majeur qui est le parrainage. Il est vrai aussi, de manière plus conjoncturelle, que les affaires récentes ont pollué le débat. Hein.
L'affaire Fillon, notamment ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, une semaine avant l'ouverture officielle du parrainage à peu près, où tout était bloqué. Plus personne au niveau des élus ne bougeait parce qu'ils voulaient savoir comment allait évoluer le paysage politique. Est-ce que François Fillon allait être toujours le candidat de la droite ou pas ? Est-ce que ça allait être Alain Juppé ? Parce que vous voyez que certains voulaient parrainer Juppé. Est-ce que ça allait être Baron, etc. Donc ça a un peu figé les choses pendant une semaine à peu près. C'était très gênant pour des candidats comme moi parce que nous avons justement besoin d'être parrainé, que la décision soit prise assez rapidement, parce que si tout doit se faire au dernier moment, dans les moyens des grands partis, c'est plus compliqué.
Ramayad, comment vous expliquez que des gens comme Jacques Cheminade ou François Asselineau, qui n'ont pas la même carrière politique que vous, arrivent à décrocher ces fameux 500 parrainages ?
Parce qu'ils ont des appareils politiques depuis des années, avec un seul objectif, avoir des parrainages aux élections. Vous savez bien que Jacques Cheminade se présente depuis plusieurs scrutins, ensuite, il disparaît, et pendant 5 ans, il va chercher ses parrainages en constituant des équipes pour ça. Je vois pas l'utilité de cela, parce que si c'est juste pour se présenter et faire 0,5, puis ensuite disparaître pendant 5 ans et revenir 5 ans après, je vois pas trop à quoi ça sert, honnêtement.
Ramayad, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Revenons à présent sur les élections législatives aux Pays-Bas, remportées par le Premier ministre sortant, le libéral Mark Rutte. Son parti, le VVD, termine en tête du scrutin avec 21% et 33 sièges. Loin devant, le PVV de Geert Wilders, 13% et 20 sièges. Le populiste anti-islam a donc perdu son pari d'arriver premier, mais il gagne tout de même 5 sièges par rapport aux dernières élections. Mark Rutte va maintenant tenter de former une coalition qui exclura Geert Wilders. On retrouve à Amsterdam l'un de nos envoyés spéciaux, Bertrand Galichet.
Deuxième parti des Pays-Bas, derrière les libéraux du Premier ministre sortant Mark Rutte, l'extrême droite de Geert Wilders s'est en principe écartée du pouvoir, car les autres grandes formations politiques ont exclu de gouverner avec lui. Le chef du parti anti-islam et europhobe s'est pourtant montré ouvert aujourd'hui à une participation à la future coalition, offre déjà rejetée par Mark Rutte, qui devrait entamer un troisième mandat à la tête du pays. Le scénario le plus probable reste celui d'une alliance entre les libéraux de l'actuel Premier ministre, les chrétiens démocrates et les progressistes du parti D66. Pour obtenir une majorité, cette éventuelle coalition devrait s'adjoindre un parti plus petit, à moins qu'un accord ne soit trouvé avec les écologistes qui ont multiplié par 3 leur score par rapport à 2012. Les Pays-Bas s'attendent à de longues négociations, avec en toile de fond l'ombre du parti populiste de Geert Wilders, dont le socle électoral reste solide.
Bertrand Galichet, Geert Wilders qui fait partie de ces dirigeants populistes européens fascinés par Donald Trump. Le président américain a présenté aujourd'hui son premier budget. Principale caractéristique, les dépenses militaires augmentent de 54 milliards de dollars. Frédéric Carbone, vous êtes notre correspondant à Washington. Ce premier budget Trump prévoit dans le même temps une diminution de 30% des sommes allouées à la diplomatie et à l'environnement.
Le ministre du budget donne la grille de lecture de ce tableau désormais global. Nous avons mis en chiffres les discours de campagne de Donald Trump. Traduction, voilà un budget dans lequel la balance entre dépenses militaires et dépenses sociales, environnementales, humanitaires serait la plus déséquilibrée depuis la Seconde Guerre mondiale. Le point commun de tout cela, c'est le désengagement américain des affaires du monde. Pour la diplomatie, moins d'argent pour tous les programmes liés aux Nations Unies, opérations de maintien de la paix, déminage, aide médicale au tiers-monde, l'ONU met d'ailleurs en garde contre une réduction abrupte de ces financements. Et si on parle réchauffement climatique, plus de fonds versés à l'agence internationale chargée de ce dossier aux États-Unis. Terminer également le soutien fédéral à toutes les initiatives en faveur des énergies vertes. En fait, même sous Ronald Reagan, jamais le rôle de l'État n'aurait été aussi limité. C'est vrai pour l'éducation, pour la santé ou la recherche serait amputé de près de 5 milliards de dollars. Sans parler de la culture, les élus rappellent quand même que c'est le Congrès qui vote. Et chez les Républicains, tout ce qui ressort du retrait des affaires du monde sera vigoureusement combattu.
Frédéric Carbone, merci. Donald Trump qui a été mis en échec hier soir par 2 juges fédéraux qui ont suspendu Son deuxième décret migratoire visant 6 pays musulmans. Sean Spicer, le porte-parole du président américain, a annoncé tout à l'heure que l'administration Trump allait faire appel de cette suspension. La météo demain, les nuages reviennent sur la moitié nord avec un peu de pluie jusqu'en Lorraine. Sur le reste du pays, un temps ensoleillé après dissipation des brumes matinales. Température maximale toujours très douce pour la saison. 10 à 15 degrés au nord, 19 à 24 au sud. C'est la fin de ce journal préparé avec François-Charles Domergue.